BW. Magazine Environnement.
Face au changement climatique, notre planète change à une vitesse inédite. Et derrière les chiffres, ce sont nos ressources les plus essentielles, comme l'eau, la nourriture, la santé ou encore l'énergie qui vacille. Et les premières victimes, ce sont ceux qui les protègent depuis des générations, les peuples autochtones. Également au menu, l'état du fleuve Niger qui devient critique à cause de la pollution. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosibi Tiassou au micro. Malgré les progrès de la science et des technologies, nous restons entièrement tributaires d'écosystèmes vivants et équilibrés pour notre eau, notre alimentation, nos médicaments, nos vêtements, notre énergie ou encore notre carburant. Mais l'humanité poursuit une trajectoire qui les fragilise à une vitesse fulgurante. Pollution, crise climatique, destruction des habitats naturels, exploitation à court terme des ressources, les pressions s'accumulent et les conséquences sont désormais visibles. Et pour de nombreux experts, la solution passe par l'écoute et la reconnaissance de celles et ceux qui, depuis toujours, vivent en harmonie avec la nature, les peuples autochtones. Mais ce n'est toujours pas le cas, comme l'explique Albert Kwaku Barum, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les communautés autochtones sont les premières touchées alors même qu'elles sont criminalisées et voient leurs droits bafoués.
Alors, les questions importantes, je pense toutes les séances du forum, les peuples autochtones ont souligné beaucoup de problèmes. Moi-même, j'ai rencontré une rencontre privée ou bilatérale, plusieurs groupes de peuples autochtones qui ont souligné des problèmes, notamment la criminalisation des peuples autochtones qui sont parfois qualifiés d'ennemis de l'État, d'extrémistes, des terroristes, où plusieurs sont arrêtés, détenus, il y en a même qui sont tués. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'ai cité un rapport d'une ONG internationale qui travaille sur les défenseurs des droits des peuples autochtones, qui, dans son dernier rapport de 2023, indique que les peuples autochtones représentent 13% des activistes des droits humains qui étaient tués au courant de l'année 2023. C'est quand même disproportionnellement énorme, étant donné le petit nombre de peuples autochtones qui font presque 5% de la population mondiale. Il y a également les questions des opérations des industries extractives qui ne sont pas conformes aux standards internationaux et plus spécifiquement aux droits des peuples autochtones. Et ça cadre un peu avec tout ce comme minerais stratégiques, minerais rares, minerais de la transition écologique, tous ces efforts, toutes ces entreprises ou de l'économie verte. On sent une rouée, mais beaucoup d'Autochtones disent que beaucoup de ces opérations ne sont pas conformes aux standards internationaux, ne respectent pas leurs droits fonciers sur les terres et sur les espaces et sur les ressources. Parce qu'il faut le dire, les peuples autochtones ont des droits très, très, très spécifiques qui découlent de leur droit à l'autodétermination. Et les peuples autochtones sont des nations, sont des peuples au sein des États. Et donc, ont ces droits de déterminer leur avenir, de gérer eux-mêmes leurs ressources, de décider si les mécanismes de système éducatif, des systèmes de santé, même de la vie socio-économique. Donc, c'est des normes qui ont poussé la Déclaration des Nations Unies, c'est le droit des peuples autochtones, à instituer les concepts de CLIP, du consentement libre, préalable, éclairé. C'est un mécanisme de mise en œuvre de l'autodétermination qui a été conçu pour que le peuple autochtone puisse se prendre en charge. Et donc, beaucoup de ces industries-là, de ces opérations, vraiment, ne sont pas à niveau avec ces standards-là. Et ça, c'est une grande inquiétude.
Les chiffres donnent le vertige. Près de 75% des environnements terrestres et 66% des milieux marins ont été profondément altérés par les activités humaines. 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction, mettant en péril l'équilibre des écosystèmes dont dépend l'ensemble de l'humanité. Des tendances qui menacent d'hypothéquer jusqu'à 80% des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour Albert Barum, répondre à cette crise nécessite de reconnaître pleinement les droits des peuples autochtones et de les associer à la protection et la conservation de la biodiversité.
Les changements climatiques, je pense que c'est accepté aujourd'hui. C'est vraiment accepté la contribution des connaissances traditionnelles des peuples autochtones pour les changements climatiques. Ça, c'est accepté, c'est prouvé, c'est démontré. La deuxième chose qui a été démontrée aujourd'hui, c'est la contribution des peuples autochtones au maintien de la biodiversité. Parce que les espaces occupés par les autochtones sont riches en biodiversité. Ça, c'est accepté aujourd'hui. Mais la question qui se pose, c'est qu'il faut que ces efforts de biodiversité et ces efforts pour les changements climatiques respectent les droits des peuples autochtones, notamment sur leurs terres, sur leurs espaces et sur les ressources naturelles. On a comme l'impression qu'il faut que ces processus de changement climatique et de maintien de la biodiversité vraiment tiennent compte de la particularité et du caractère particulièrement fort des droits fonciers des peuples autochtones parce qu'ils sont liés à leur droit à l'autodétermination. C'est des droits assez particuliers auxquels les autochtones ont et qui sont protégés entre autres par ces principes du CLIP. Donc, il y a cette reconnaissance. Mais l'autre condition aussi pour le changement climatique, c'est vraiment les financements des peuples autochtones. À notre avis, les peuples autochtones l'ont répété plusieurs fois, il faut qu'il y ait un financement direct des bailleurs de fonds ou de donateurs de fonds qui vont directement aux peuples autochtones pour renforcer leur capacité, y compris leur connaissance traditionnelle, dans la lutte contre le changement climatique et le maintien de la biodiversité. Je pense que la connaissance des peuples autochtones, elle fait partie de leur culture. Elle fait partie de leur culture, elle est générée par leur environnement, leurs terres, leurs espaces coutumiers. La protection des terres coutumières, la protection des terres autochtones, des espaces autochtones et des ressources autochtones contribue effectivement. Je suis content, d'ailleurs, il y a récemment la convention sur la propriété intellectuelle qui, je pense que WIPO a passé, qui pour la première fois commence à faire ses pas vers la reconnaissance du savoir traditionnel autochtone comme un droit protégeable et qui doit être respecté.
La biodiversité est la base même de notre sécurité alimentaire, de nos moyens de subsistance, de notre santé et de notre résilience face au climat. 3 milliards de personnes dépendent du poisson pour 20% de leurs protéines animales. Et dans de nombreux pays en développement, 80% des populations rurales ont recours à la pharmacopée traditionnelle pour les soins de base, notamment les peuples autochtones. La destruction des écosystèmes accroît par ailleurs le risque de transmission de maladies, notamment zoonotiques. Préserver la biodiversité, c'est donc aussi protéger la santé mondiale.
DW.
Cap à présent sur le Mali. À Bamako, l'état du fleuve Niger devient critique. Pollution plastique, rejet d'eaux usées, orpaillage, la pêche s'effondre, les espèces aquatiques disparaissent et un véritable problème de santé publique s'installe. Un reportage de Makan Fofana.
L'arabique marée en est à son quatrième jet de filet, mais cette fois encore, aucun poisson ne remonte. Seuls des sachets plastiques se coincent dans les mailles. Pour le jeune pêcheur, c'est devenu une habitude. Il lui faut plusieurs tentatives pour espérer quelques prises. Ce phénomène en dit long sur le niveau de pollution du fleuve Niger à Bamako.
Les poissons se font rares parce que les ordures et les plastiques envahissent le fleuve. Ces déchets arrivent par les collecteurs. Quand il pleut, nous sommes souvent obligés d'abandonner nos filets dans l'eau à cause des plastiques.
Si l'Arabie continue à se battre contre des déchets plastiques pour gagner sa pitance, certains comme Sékou Diarra ont préféré ranger leurs filets. Le sexagénaire ne peut plus vivre de la pêche. Pour Sékou, l'orpaillage clandestin qui ravage les lits du fleuve en amont est la principale cause de cette pollution.
Par chance, il arrive que la pêche soit bonne certains jours. Mais vivre de la pêche est devenu très difficile. C'est pourquoi j'ai arrêté pour le moment. Il y a plus de déchets plastiques que de poissons dans l'eau. Ce sont l'orpaillage et les ordures qui dégradent la qualité du fleuve.
Les conséquences ne se limitent pas à la raréfaction du poisson. La dégradation du fleuve constitue aussi une menace pour la santé publique.
Quand je fais la vaisselle ici, je suis obligée d'aller rincer mes ustensiles à la maison, car le fleuve n'est plus propre. J'ai aussi remarqué qu'à chaque fois que les enfants se baignent ici, ils attrapent la bilharziose dans les jours qui suivent.
Attention.
Long des 4200 km, dont 1700 traversent le Mali, le Niger, Djoliba en Mandingue est vital pour l'agriculture, la pêche et l'alimentation en eau potable. Cela fait des années que des organisations environnementales tirent la sonnette d'alarme. Mais ces derniers mois, la pollution a atteint un niveau inquiétant. Au début de l'hivernage en juillet, l'eau jaunâtre du fleuve s'est retrouvée jusque dans les robinets de plusieurs quartiers de la capitale malienne. La société malienne de gestion de l'eau potable a mis en cause les machines de drague tout en assurant que l'eau restait potable. Le même mois, la garde nationale a détruit plus de 200 dragues installées illégalement, mais cette opération n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. La loi interdit les plastiques non biodégradables et l'orpaillage sur le fleuve. Mais sur le terrain, les pratiques continuent. Selon une étude menée en 2021 par l'ONG John for Water, plus de 611 000 mètres cubes d'eau usée sont déversés chaque jour dans le fleuve. Une situation dramatique qui reste ignorée par la plupart des riverains, constate Khalifa Munkoro, coordinateur de l'ONG Roots and Shoots.
Voilà. Quand vous dites à certaines personnes, ne jetez pas les ordures dans l'eau, la première réaction souvent c'est dit, toi tu es qui pour me dire de ne pas jeter les ordures dans l'eau. Au niveau des autorités, il faut souvent des sanctions. Si l'eau est pollue, les poissons ne sont pas en bonne santé, les crocodiles ne sont pas en bonne santé. La protection du fleuve, ce n'est pas seulement une question de vie humaine, c'est aussi une question de vie animale.
Khalifa Munkoro a constaté très tôt l'ampleur de la pollution. Il mobilise des élèves pour ramasser les déchets plastiques et sensibiliser la population, comme ici, au campement des pêcheurs de Badalabougou.
Avec les enfants, s'il y a un événement, que ce soit voilà, mariage et autres, on passe avec un petit groupe, on commence à ramasser les plastiques. Donc ça, c'est déjà un message fort. Parce que si un enfant tout de suite l'a dit à un adulte, n'hésitez pas les ordures dans le fleuve, c'est polluant. Donc c'est important.
Ces efforts représentent peut-être une goutte dans le fleuve, mais c'est un pari sur l'avenir.
Merci à Makan Fofana pour ce reportage. Alors que les signaux d'alerte s'intensifient, les appels à protéger l'environnement et à transformer notre rapport au vivant se multiplient. Merci également à vous de nous avoir suivis. Kosivitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la DW.